Le journal est présenté par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Port du chapeau obligatoire à Windsor ce samedi. La reine Elisabeth II marie son petit-fils Harry à l'américaine Meghan Markle. Vous n'êtes pas invité, moi non plus, mais cette noce princière devrait être suivie par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Il faut dire qu'en accueillant dans ses rangs une ancienne actrice américaine divorcée et descendante d'esclaves, la famille royale britannique parachève la modernisation de son image incarnée par les deux fils de Charles et Diana. C'est l'analyse du journaliste du Guardian, John Henley.
La jeune génération représente pour beaucoup d'Anglais une vraie réussite. Globalement, William et Harry donc, sont très appréciés. Harry, c'est le plus apprécié, 83% taux d'appréciation, représente un visage beaucoup plus moderne, beaucoup plus informel. Il y a eu vraiment une véritable stratégie de rapprochement avec les citoyens britanniques. Et pour beaucoup d'Anglais, même des plus jeunes, avec le Brexit, la famille royale, c'est tout ce qui nous reste de notre gloire historique. Tout ce qui rappelle un petit peu le passé un peu plus glorieux que le présent britannique est le bienvenu.
John Henley, journaliste au quotidien de Londres, le Guardian, au micro d'Antoine Gignot. À milieu des fastes princiers, l'Amérique pleure les morts de Santa Fe. 10 personnes tuées hier dans un lycée public par un élève de 17 ans qui a été interpellé par la suite. Il a utilisé le fusil et le pistolet de son père et voulait mettre fin à ses jours selon les premiers éléments de l'enquête. Il s'agit là en tout cas de la 22e fusillade mortelle dans un lycée des États-Unis depuis le début de l'année, sans qu'aucune mesure politique n'ait été prise depuis la mort de 17 adolescents dans des circonstances similaires. C'était en mars à Parkland, en Floride. En Irak, les résultats définitifs des élections législatives confirment la victoire de l'alliance forgée entre les communistes et l'ancien chef de milice chiite Moqtada al-Sadr. Ce dernier ne pourra pas devenir Premier ministre puisqu'il n'était pas lui-même candidat au Parlement. Sa coalition anti-système et anti-corruption fait face à l'hostilité de l'Iran mais également des États-Unis. Lui avait basé sa campagne des législatif sur un discours violemment anti-migrant en Hongrie. Le Premier ministre nationaliste Viktor Orban a installé au pouvoir hier son nouveau gouvernement pour son troisième mandat à la tête du pays. La bête noire de Bruxelles ne compte rien changer dans sa ligne politique souverainiste. On voit ça depuis Budapest avec Florence Lamoyère.
C'est dans le décor rouge et or du Parlement que Viktor Orban a présenté son équipe de 13 ministres, dont 7 étaient déjà en place dans le gouvernement sortant. Le Premier ministre hongrois a indiqué qu'il envisageait de rester aux commandes jusqu'en 2030. Et il a donné les grandes lignes de son programme qui tient en deux mots, nationalisme et souverainisme. Viktor Orban confie au ministre de la Justice, Laszlo Trocsányi, la mission de préserver la souveraineté nationale face au droit européen. La période à venir va être très animée, a ajouté le Premier ministre, signifiant par là qu'il était prêt à croiser le fer sur ce sujet avec Bruxelles. Si le chef de la droite hongroise crée un nouveau portefeuille, celui de l'innovation, il entend maintenir un cap ultra-conservateur. À la tête du principal ministère, qui chapeaute l'éducation, la santé et la culture, Viktor Orban a nommé une personnalité controversée, le médecin Miklós Kessler. Ce nouveau ministre, connu pour ses vues réactionnaires, a mis en doute la théorie du Big Bang. Il a aussi déclaré que 80% des Nigérians avaient le sida, ce qui a entraîné de vives protestations de l'ambassade du Nigeria à Budapest. Et selon le nouveau ministre, 70% des maladies mortelles pourraient être évitées en étant un bon chrétien et en observant les 10 commandements.
Florence Labruyère. En Italie, sans surprise, les militants du mouvement 5 étoiles s'expriment largement en faveur du programme de gouvernement commun avec l'extrême droite. La consultation de la base organisée hier au sein du mouvement populiste a débouché sur une adhésion des militants à plus de 94%. Consultation qui a lieu ce week-end, cette fois dans l'autre composante de cette alliance de gouvernement anti-système, la Ligue d'extrême droite italienne. 9h04 sur France Culture. Le souvenir de mai 68 va-t-il redonner des couleurs au camp des travailleurs? Ça n'a pas tout à fait l'air d'être parti pour, en tout cas en termes de convergence des luttes sociales. Mais dans les rangs de lutte ouvrière ce week-end, on évoquera largement le cinquantenaire des grèves générales de 1968 à la fête annuelle du parti qui se déroule jusqu'à lundi à Presles dans le Val d'Oise avec à la tribune l'inoxydable Nathalie Arthaud, bien sûr.
Mai 68 a prouvé que les travailleurs étaient capables de relever la tête, d'imposer au pouvoir et au patronat des avancées sociales. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut effectivement une levée en masse du monde du travail. Voilà, il faut se battre pour nos intérêts, pour nos droits. Et c'est ce que font les cheminots. C'est ce que font les cheminots depuis maintenant 2 mois. Ils ont 1000 fois raison. Nous sommes tous attaqués. Nous sommes tous attaqués, qu'on travaille dans le public, dans le privé, dans les petites entreprises, dans les grandes. Donc il faut mettre un coup d'arrêt à cette offensive qui vient du gouvernement Macron, mais en réalité qui est une offensive de tous les jours du grand patronat. Nous utilisons, oui, bien sûr, ce qui s'est passé en mai-juin 1968 pour dire que les travailleurs, ils peuvent se lever et ils peuvent effectivement ébranler un pouvoir et imposer leurs intérêts au gouvernement et au patronat. Ils peuvent le faire, ils l'ont fait dans le passé.
Nathalie Arthaud, ne l'appelez plus jamais Le Pen. Marion Maréchal ne veut plus qu'on l'appelle par le patronyme de son grand-père et de sa tante. Désormais, ce sera donc Marion Maréchal tout court, en tout cas sur les réseaux sociaux. Un ripollinage qui laisse entrevoir les ambitions de l'ex-députée du Vaucluse, proche des identitaires, en vue de la présidentielle de 2022. Et puis cette bonne nouvelle au chapitre économie pour l'industrie automobile en France. Le groupe allemand Daimler investit 500 millions d'euros dans son usine Smart de Hambach en Moselle, une usine qui emploie 800 personnes et qui produira bientôt donc le premier modèle SUV 100% électrique et made in France de la marque Mercedes-Benz. La météo, enfin, ce sera du beau temps pour ce week-end et ça va se dégrader à partir de lundi de Pentecôte. Pour ce matin, les températures affichent déjà de 10 à 20 degrés du nord de l'Hexagone au sud. Cet après-midi, on atteindra les 25 degrés sur le quart sud-est. Merci à Emmanuel Faucillon qui réalisait les journaux de cette matinée à 12h30. Prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture. Ce sera le journal de Mathieu Laurent.